Nous sommes en mars 2014, c'est l'émission numéro 12.
Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus dans ce nouvel épisode de E-Teachers. C'est notre 12e numéro et c'est un numéro un peu spécial puisqu'on a un invité qui, d'ici quelques minutes, va se présenter. Juste avant, revenir un petit peu sur l'épisode précédent, Jeff, quelques retours comme d'habitude.
Ouais, bonsoir à tous. On a eu quelques retours. On a eu surtout un retour qui nous a dit via Twitter, qui est @ccaio, qui nous dit exactement « Votre conversation est très intéressante, c'est sympa de la partager ». En tout cas, merci à lui de ce retour-là.
Merci.
Via la communauté aussi d'Emmanuel Grange, qui on avait invité il y a 3 semaines, puisqu'il y a eu les vacances entre-temps. On a eu pas mal de retours, donc c'était assez sympa, une bonne communauté assez vivante. Voilà le seul retour qu'on a eu directement.
Bon, alors ce soir un épisode un peu particulier, comme on le disait, puisqu'on a un invité, donc on a un collègue enseignant de philosophie qui est basé sur Bruxelles et qui va nous en dire un petit peu plus. Moi, je suis très très content d'avoir François avec nous parce que c'est un défaut de notre part, mais c'est vrai qu'a priori, pour les enseignants qui utilisent les TIS, je pense pas que ce soit la première matière à laquelle on associe les nouvelles technologies, et je suis très très heureux qu'on puisse dire le contraire ce soir. Et voilà, je me fais l'avocat du diable complètement en disant ça, hein, par rapport à certains retours qu'on peut avoir, parce que même moi, en tant qu'enseignant d'anglais, en général, quand je fais des formations, je dis, je pense qu'on va laisser François se présenter. Qu'est-ce que t'en penses, Jeff?
Ouais, à toi, François, vas-y.
Oui, bonjour. Alors, je suis François Jourde. J'enseigne la philosophie et je l'enseigne. Donc, je suis français. Je l'ai enseigné longtemps, depuis une quinzaine d'années. J'ai enseigné longtemps en France et puis pour la 5e année, là, j'ai la chance de l'enseigner à Bruxelles dans une structure un peu particulière qui est l'une des écoles européennes, qui sont un réseau d'écoles assez atypique parce qu'on y scolarise les enfants des fonctionnaires, des institutions européennes. Donc, on a des sections de toutes les langues. Moi, j'enseigne dans la section francophone, mais j'ai la chance d'avoir des collègues professeurs de philosophie et d'autres matières de plein d'autres langues, puisque mes collègues de philosophie sont danois, anglais, polonais, italien, espagnol, etc. Donc, c'est assez chouette. Et en plus, je suis dans une école où ça va de la maternelle, pardon, de la primaire jusqu'au baccalauréat. Et donc, ça me permet d'échanger avec pas mal de niveaux. L'enseignant de philosophie est généralement dans les sphères ultimes du secondaire, dans les étages ultimes du secondaire. Et donc, j'ai la chance de pouvoir discuter pédagogie, en fait, avec des gens de tous les niveaux jusqu'à la primaire. Et souvent, les profs de primaire ont beaucoup de choses à nous apprendre, ou à nous rappeler plutôt.
Oh oui, pédagogie.
C'est vrai. Ouais.
Et puis, une petite précision aussi, c'est que la philosophie à l'école européenne où je travaille s'enseigne, c'est le programme français en fait, hein, c'est quasiment les mêmes exercices qu'en France en termes d'évaluation. Par contre, on a la chance de la faire officiellement sur 2 années. Donc c'est assez particulier parce que moi ça m'a vraiment changé la vie. Parce que on peut musarder un peu plus, on a le temps d'assimiler les choses et on n'est pas dans le bachotage. D'autant plus qu'à l'école européenne, le baccalauréat a une large part de contrôle continu, donc on est à peu près à 50% de contrôle continu, et donc le bac n'est pas une angoisse pesante. C'est assez fair play.
D'accord.
Voilà. Donc ça peut dire que dans la pratique, ça m'a libéré quand même du temps et de marge de manœuvre que j'espère pouvoir retrouver le jour où je reviens en France, mais je sais que c'est plus difficile dans les matières où il y a le baccalauréat ou dans des ambiances de bachotage.
Tout à fait.
Je
coupe ça 2 secondes, j'ai oublié de préciser, si vous voulez réagir en direct, on a le hashtag sur Twitter eTeachers, ou alors directement en cliquant sur la vidéo, où vous pourrez poser vos questions. Voilà, c'est tout.
Donc, François, ce qui nous a un petit peu attiré dans ta pratique, c'est que tu fais énormément de choses avec les outils numériques. Tu vas nous en parler dans un moment. Ma première question, c'est comment tu y es venu, depuis combien de temps, et surtout pourquoi ? Est-ce que c'est venu d'une passion personnelle d'abord ? Est-ce que tu as vraiment eu un besoin, c'est-à-dire des problématiques et ces outils numériques ont permis d'y répondre ? Comment t'en es venu à te dire un jour, bah tiens, je vais utiliser ces nouvelles technologies ?
Bon, je pense qu'il y a une part de complexion personnelle, c'est-à-dire la manière dont je suis fait. J'ai toujours aimé les ordinateurs, j'ai jamais été programmeur ni quoi, mais ça m'a toujours intéressé. Et je me souviens déjà au lycée, dans le club informatique, avec l'Apple 2. Donc voilà, j'ai manipulé ces choses-là. Et puis, par contre, je ne les ai pas du tout utilisées au début de ma carrière. Ça, je pense qu'il y a une raison aussi. Enfin, je ne sais pas comment je ferais maintenant. Si, au début de ma carrière, il n'y avait pas Internet, en fait. Hein. Mais c'est vrai que je pense que je fais une petite parenthèse. En devenant un peu enseignant senior, comme nous le sommes, là, je pense, nous tous, on est un peu plus détendu par rapport au risque inhérent de bug qui est toujours présent dans la manipulation informatique, qui fait que, avec un peu de métier, mais on peut l'avoir au début, ça, enfin, moi, je l'ai eu avec un peu de métier, on est décontracté par rapport à ça. Donc, j'aurais été sans doute moins à l'aise au début si j'avais eu l'occasion d'utiliser l'outil numérique, je pense, à cause d'une certaine crispation qu'on a un peu en début de carrière, je crois. Hein. Voilà, donc alors c'est venu un peu lentement. En fait, j'ai commencé par faire un petit site personnel. Ça, c'est dans les années 80, je sais plus trop quoi, mais en fait début 2000. Pas encore d'utilisation vraiment par les élèves. Et puis voilà, j'ai commencé à faire des choses très simples avec les élèves, des petits PowerPoint en salle multipost, des choses comme ça. Et puis je dois dire que j'avais pas mal d'idées. Il y a 6-7 ans, je commençais à avoir pas mal d'idées, mais j'étais un peu bloqué pour des raisons logistiques, du fait que j'avais pas facilement accès aux salles multipost d'une part, et du fait que la logistique, l'équipement technique de l'école du lycée où j'étais n'était pas ne suivait pas toujours, et on n'avait pas non plus les outils de mobilité qu'on a maintenant. Il faut dire aussi, hein. Donc, bring your own device, c'était pas si possible. Et puis voilà, puis avoir juste nouveau poste et qui est venu aussi avec un meilleur équipement, une certaine maturité. Et alors, ça a déclenché. C'est vrai que les choses, et c'est vrai qu'une fois, franchement, qu'on commence à rentrer dedans, les idées viennent vraiment en marchant, je trouve. Et pour moi, le numérique est vraiment devenu un catalyseur d'inventivité pédagogique, une sorte de super imprimerie freinée qui fait que si tant est qu'on a, dès qu'on a une petite réflexion pédagogique, alors tout de suite, on voit tout de suite ce qu'on peut faire, et c'est une sorte d'interaction constante entre une inventivité purement pédagogique et des potentialités, des affordances, des potentialités techniques. Et donc, je dois dire que c'est très stimulant parce qu'on a la sensation de pouvoir, dans son métier, se renouveler presque constamment, en fait, hein. Et voilà, donc on a des moyens d'inventer des dispositifs d'apprentissage, de créer toutes sortes de situations d'apprentissage nouvelles. Et vraiment, l'enseignement, je le vois comme ça, hein. Je le vois comme étant donner des occasions d'apprendre aux élèves. Alors, avec le numérique, des occasions motivantes, intéressantes et stimulantes. Et avec le numérique, on a vraiment, avec ça, des outils fabuleux, je trouve. Donc, je l'utilise de plus en plus, et plus on l'utilise, plus ça augmente, je trouve.
D'accord. Alors, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Moi, je t'ai contacté parce que je suis tombé amoureux d'un projet que tu as lancé sur la réalité augmentée. Donc, si tu peux nous en parler un petit peu, parce que je suis tombé, je serais intéressé de savoir un petit peu.
Alors ça, c'est ma dernière marotte. En fait, ça faisait un moment que je cherchais quelque chose qui me permette de faire cela, et puis il n'y avait pas encore l'outil.
Si tu peux expliquer un petit peu la réalité augmentée, oui. Déjà, c'est vrai.
Attends, je vais juste dire d'où ça vient.
Vas-y.
Et comment c'est venu comme une solution. Alors, le besoin que j'avais, moi, c'est que je produis avec mes élèves beaucoup de ressources numériques. Soit des ressources papier que je numérise, mais souvent des ressources directement numériques, des vidéos, de l'audio, des cartes d'idées, des quiz, toutes sortes de choses. Et alors, ces choses-là, ces productions, parce que j'essaye de faire une pédagogie de la publication. Je pense que le fait de publier les travaux scolaires leur donne une autre dimension. Ça, on pourra en parler encore, mais je n'en parle pas maintenant. Et donc, je les ai publiés sur un site dédié, un blog, qui me permet de catégoriser les travaux scolaires et de les garder, de les réutiliser, de les consulter plusieurs années après. Voilà. Et puis, ma question, c'était comment augmenter l'accès, faciliter l'accès, augmenter l'accès à ces travaux. Alors, j'ai d'abord eu une première idée qui a complètement foiré, enfin, qui a relativement foiré, mais d'une façon intéressante, c'était d'utiliser des QR codes. Oui. Que j'avais collé dans certains ouvrages de la bibliothèque. Et alors chaque QR code, par exemple sur le bouquin de Sartre, il y avait un QR code qui renvoyait aux ressources produites par les élèves à propos de Sartre, qui étaient stockées sur le site. Bon, ça a raté parce qu'il n'y avait pas de Wi-Fi dans la bibliothèque, d'une part, et la structure du bâtiment empêche le 3G de passer. Donc les QR codes n'étaient pas tellement activables par les élèves. Mais le Wi-Fi était installé avant-hier à la bibliothèque, donc je vais peut-être réactiver le truc. Voilà. Mais les élèves n'ont pas encore accès, donc ça serait trop beau. Il y a un boîtier Wi-Fi. Voilà. Et puis alors, au moment où ça foirait, j'étais dans le désarroi le plus total. Et là, je suis tombé sur Twitter. C'est important parce que c'est souvent sur Twitter qu'on trouve les choses. Je vois mon image qui, chez moi, elle saute un peu parfois. Je sais pas si ça me dérange.
Ouais, mais c'est pas bien grave.
C'est pas grave.
Donc, je change la caméra. Mais, j'avais ce besoin, et c'est là qu'on repère les outils, hein, souvent, hein, et j'ai vu cet outil-là, Orasma. Alors, il y a deux outils pour faire la réalité augmentée, deux outils majeurs que je vois, moi, c'est Orasma et Layar. Alors, c'est quoi la réalité augmentée? C'est le fait de projeter, d'inscrire, d'incruster dans des images. Donc, on capture la réalité avec une caméra, et on incruste dans cette image d'autres images virtuelles. On incruste virtuellement d'autres ressources, des images, qui vont venir augmenter la première image. C'est clair, ça? Pas tellement.
Tout à fait.
C'est comme dans Google Maps. Ça. Google Maps, vous avez une photo du sol et puis on rajoute les rues, quoi. C'est de la réalité augmentée, ça, déjà.
Ouais. Tout à fait.
Voilà. L'idée que j'ai eue, moi, d'utiliser cette application, qui est une application gratuite, mobile, multiplateforme, ça c'est important parce qu'il faut que les choses soient gratuites pour les élèves, parce qu'on ne peut pas empêcher les élèves de... Enfin, payant si c'est l'école qui paye, mais sinon on ne peut pas leur demander de l'acheter. Et elle est multiplateforme, ça je tiens beaucoup à ce que ne pas être enfermé dans un standard,
un système,
ou pas trop enfermé dans un standard. Donc ça marche sur iOS et sur Android pour l'instant, pas encore pour Windows, pas encore pour les tablettes Windows. Mais pourquoi ça, on ne sait pas. Ça marche sur les tablettes et les smartphones, outils que les smartphones que les élèves ont toujours dans leur poche, presque toujours dans leur poche. Donc l'idée, c'est un peu d'aller les prendre sur leur terrain aussi. Et donc voilà, alors moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est d'incruster les ressources du cours dans le manuel de philosophie. Donc on a un manuel de philosophie tout à fait papier, sans version numérique du tout. Je vais peut-être changer de caméra, parce que je crois que ça saute beaucoup, non?
Bon, ça saute un peu, mais bon.
Ça saute, c'est pas bien.
Bon. Alors, je fais tout en parlant. Je suis polyvalent. Donc, Donc, on a un manuel papier qui n'a pas du tout de version numérique. Maintenant, il faut que je me tourne et il faut que je vous mette devant moi. Qui n'a pas du tout de version numérique. Et nous produisons nous-mêmes notre version numérique du manuel. C'est-à-dire que j'ai simplement... Quand les élèves, techniquement, du point de vue des élèves, qu'est-ce qui se passe? Ils ont leur smartphone ou leur tablette, ils filment une page du manuel et les ressources produites souvent par les élèves eux-mêmes apparaissent dans le manuel à l'endroit où je veux qu'elles apparaissent. Par exemple, un paragraphe qui va parler peut-être de Karl Marx, je vais pouvoir y incruster virtuellement la petite vidéo faite avec les élèves sur Karl Marx, ou le quiz, ou la carte d'idées, ou toute autre ressource. Ça peut être des liens aussi. Alors, j'ai fait un système de petits boutons qui fait que quand les élèves scannent la page, vont apparaître des petits boutons qui sont des pictogrammes, en fait, qui signalent que là, il y a une vidéo activable, là, il y a un quiz, là, il y a des ressources en ligne, ou de audio. Et donc l'idée, c'est qu'on produit, j'aime beaucoup l'idée que l'on puisse produire notre propre couche numérique, notre propre augmentation du manuel avec nos ressources à nous. Et ce qui est très chouette, c'est que c'est la première année que je le fais, j'y incruse des ressources produites des années précédentes par d'autres promotions d'élèves, et comme je reste encore 4 ans dans cette école, donc je sais que je vais utiliser encore au moins 4 ans cet ouvrage, je vais continuer à l'augmenter, ce qui fait que la prochaine année, les prochains élèves, sur le même livre, accéderont à des ressources produites par des générations précédentes. Ça, c'est important aussi, parce que ça veut dire que les ressources numériques laissent les travaux scolaires d'une nouvelle durée, d'une existence un peu comme des petites œuvres, quoi. Et donc, ça peut produire une culture d'accord. de cours, et on produit comme ça une œuvre à plusieurs auteurs, assez polymorphe, parce qu'elle peut bouger. Je peux décider à la volée de changer les ressources sur telle ou telle page. Voilà. Et puis, alors, un petit détail technique, mais qui a son importance, c'est que l'application Horasma, ah oui, alors je l'aurais écrit, Horasma, bonjour, je suis enseignant, vous pouvez pas me débloquer toutes les fonctions premium, mais pas de problème.
C'est vrai?
Bien fait,
d'accord.
Maintenant, je parle d'Horasma avec vous.
Tout à fait, ouais.
Donc, il y a des comptes pour les élèves, j'ai pas utilisé ça encore, mais les élèves pourraient produire aussi leurs ressources, il y a des comptes pour eux. Mais un petit détail technique que je voulais signaler, parmi tant d'autres, j'ai tant de choses à vous dire. Un autre détail technique, c'est que lorsque je produis mes ressources, je les associe à une chaîne, comme une playlist un peu sur YouTube. Mmh. Ce qui fait que quelqu'un qui scanne le livre ne va d'abord rien voir s'il ne s'est pas abonné à ma chaîne.
Bien sûr.
Mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'un autre enseignant ou moi dans une autre configuration, nous pouvons produire d'autres ressources
à partir du
même livre. Donc on peut augmenter différemment le même livre.
Alors moi j'ai
la même ressource peut être augmentée différemment.
J'ai juste d'accord. une question un peu du point de vue de l'éditeur du manuel. Est-ce que lui ça l'intéresse? Est-ce qu'il s'est posé la question? Est-ce qu'il est peut-être pas du tout au courant? Parce que je veux dire, demain moi je prends l'application, je scanne le manuel, je vais trouver plein de ressources associées au manuel.
Ouais.
Il peut être très bien, mais enfin, il y a quand même une question sur qui, par rapport à ça, quoi.
Ok. On peut passer en off là? Non. En fait, c'est très bien. Moi, je pense que le droit. J'ai eu une petite discussion avec un collègue français hier, d'ailleurs, sur Twitter à ce propos, un tout petit échange. Mais je pense que le droit là est un peu flottant. Moi, je ne diffuse pas son manuel. Bon, d'abord, pour que mes ressources marchent, il faut avoir son manuel. C'est déjà bien. Moi, je ne diffuse pas les pages de son manuel. Certes, je les ai scannées et je les ai téléversées sur la plateforme qui me sert à créer les ressources. Mais nulle part sur le web, on peut accéder aux pages du manuel en tant que tel. Donc, je ne diffuse pas son matériel à lui. J'augmente son matériel. Alors, je ne sais pas. Juridiquement, c'est un peu. Est-ce que les images déclencheuses, parce qu'on parle de triggers dans cette application, est-ce que les images déclenchantes, est-ce que les marqueurs sont la propriété? Voilà. Moi, je pense que c'est plutôt bien pour lui. Ils font pas une très bonne veille numérique. C'est Hachette là, le bled philosophie de Hachette, parce que on en parle un petit peu depuis quelques temps, et ils m'ont pas contacté. Mais je vais leur dire bientôt. Et puis, je pense que c'est plutôt bien pour eux. Voilà.
Oui, mais non, moi je pense aussi.
Je pense aussi,
qu'ils sont plutôt intéressés par te contacter et même te proposer de collaborer, parce que c'est le genre d'initiative qui peut vraiment les motiver. Voilà. Moi, je trouve ça vraiment exceptionnel. Écoute, ça fait quelques années qu'on est de la partie aussi dans le développement des usages numériques, et c'est la première fois que je me dis waouh, il y a vraiment une plus-value, parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui, il y a des plus-values bien évidemment, mais rien qui m'avait jamais vraiment mis une telle claque, je le reconnais. Je trouve que c'est une utilisation excellente. Bon, en France, on a quand même encore un peu le problème de l'utilisation des outils nomades. Et moi, je suis pour les faire rentrer dans la classe et je milite pour ça, mais ça pose quand même encore d'énormes problèmes par rapport à ça. Mais je trouve ça, ouais, vraiment se réapproprier leurs outils, quoi. Leur montrer qu'ils ont une autre utilisation que uniquement le Facebook.
Ah oui, ouais.
Oui, mais là l'intérêt, c'est qu'ils peuvent aussi.
Pardon, j'ai toujours en tête une belle formule de Serge Tisseron qui dit il faut coloniser les outils numériques. Et il faut coloniser académiquement, scolairement. Mmh. Qui sont des outils, ou alors d'autres disent transformer les moyens de mass distractions dans des moyens de mass instruction.
Tout à fait.
Je tiens beaucoup à ça, ouais, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que les élèves ont, moi je vois bien, les élèves ils ont le PC à la maison, mais même s'il n'y a qu'un PC, la petite sœur est sur l'ordinateur, alors ils vont pas forcément aller vers la ressource. J'aime bien aller faire un peu de push en quelque sorte, hein, aller vers eux. Et c'est vrai qu'ils ont dans leur poche de quoi accéder, alors il faut vraiment utiliser ça.
Justement, tu as un retour des élèves là-dessus ou non?
Alors, moi, je suis très, il y a un wow effect, il y a un effet de, alors wow effect, c'est un anglicisme, il y a des gens qui seraient pas contents, il y a un saisissement lié à ça, parce que c'est vrai que c'est assez bluffant, c'est assez bluffant, l'effet visuel est assez bluffant, d'autant plus que c'est souvent leur ressource à eux. Alors je les mets pas en scène en vidéo, mais c'est souvent de l'audio qui sont fait, et puis ou même des productions, hein. Donc il y a un effet réflexif intéressant pour eux. Et il y a un wow effect. Et encore, moi, je n'utilise pas la 3D parce que je ne sais pas faire. Et j'ai pas tellement l'usage en philosophie, mais il y a des fonctions 3D dans ces applications-là qui sont assez bluffantes, assez impressionnantes pour des profs qui auraient besoin de ça, peut-être en chimie ou etc. En histoire, pour des objets, bref. Donc il y a un effet, saisissant. Derrière ça, il faut quand même, bon, quel que soit le caractère ludique de la manipulation. Ça me fait plaisir qu'ils aillent voir les ressources de façon par curiosité, mais il faut quand même que le prof, je suis pas le seul cours qu'ils ont, et si je veux qu'il y ait vraiment une fréquentation, une utilisation des ressources, il va falloir que je commence, que j'ai pas encore fait, à leur faire faire des activités utilisant cet outil-là.
Oui, d'accord.
Pour qu'il y ait vraiment une fréquentation plus scolaire et liée à un travail. Alors, une petite précision, ce que je fais aussi, c'est que quand je publie les ressources en réalité augmentée, je m'arrange toujours pour les publier aussi en ligne. C'est-à-dire qu'un élève qui n'aurait pas de smartphone ou qui ne voudrait pas simplement le faire comme ça, pourrait aussi trouver les ressources en ligne. Mmh. Donc, elles sont accessibles. J'essaie de pas les bloquer par rapport à ça.
Ok. Tu parlais de production d'élèves. Alors il y a un outil que tu utilises qui est assez sympa, c'est quand ils font des petites synthèses, hein, je crois, sur le cours. Ouais. Alors on les voit pas directement, c'est une sorte de un petit personnage animé.
Oui, ouais. Alors ça, c'est un outil que j'aime beaucoup. Ça s'appelle, que j'utilise depuis quelques temps, qui s'appelle Telagami. Je crois que c'est le seul à faire aussi bien ce qu'il fait. Telagami, en fait, donc c'est une petite application qui fonctionne sur iOS, je suis sûr, sur Android, je crois bien aussi, iPhone, enfin smartphone, on va dire, et tablette.
Parce que alors, j'aime beaucoup. Je te coupe. Les élèves sont équipés de tablettes dans
ta classe, c'est ça? Non, pas énormément. Les tablettes, d'accord. J'en ai deux, trois. Sur tous mes élèves, en tout cas. Mais ceux qui viennent.
Ils utilisent donc leur propre smartphone, c'est ça?
Alors c'est plutôt les smartphones, les
d'accord,
tablettes,
okay, d'accord, très
encore
bien.
Chez moi, voilà, pas encore okay. Tellement, sont pas encore très présentes. Alors, mais ce qui est intéressant, donc Telagami, en gros, l'idée c'est les élèves choisissent un petit personnage, ils lui disent si c'est un homme ou une femme, ils l'habillent un petit peu, donc il y a quelques choix de configuration du personnage. Ils choisissent l'arrière-fond dans lequel ce personnage se place, soit parmi un choix que l'application propose, soit en prenant une photo. Et puis ensuite, ils enregistrent 30 secondes de voix. Et une fois qu'ils ont enregistré ça, l'application se charge d'animer le personnage selon ce qui est dit. Alors ça marche très bien. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Enfin, c'est très intelligemment fait. Et donc le personnage. Alors c'était intéressant parce que travailler avec l'image, la vidéo des élèves, d'enregistrer, c'est toujours un peu compliqué, à la fois pour les questions de droit évidemment, et puis des questions d'image de soi à l'adolescence qui ne sont pas évidentes à gérer. Bon, la voix, il y a aussi des questions de droit, mais en tout cas, en termes d'image de soi, c'est beaucoup plus simple. Et ils ont des très belles voix, en plus, je trouve. C'est très surprenant d'écouter que leur voix. Voici Telagami. Et j'aime beaucoup. Et donc, une fois qu'on a publié cette petite application, soit je leur prête ma tablette ou mon iPhone en essayant de le récupérer après, soit et après, ça produit une petite vidéo que l'on peut sauvegarder tout de suite en un clic et faire circuler. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est des vidéos de 30 secondes. Alors, d'accord. Si on est vraiment hyper bloqué par ce format contraignant, on peut en faire plusieurs et puis les abouter ensuite, les joindre ensuite. Mais j'aime beaucoup, moi, les contraintes stylistiques, hein, et 30 secondes pour résumer une thèse, pour résumer un texte. Mmh. Alors, c'est intéressant. Bah, typiquement, j'ai fait travailler sur un texte, exercice ultrascolaire, mais vraiment indispensable. Analyse linéaire du texte, savoir formuler la thèse, le plan, etc. Et ensuite, l'idée centrale, le problème, bon, ok. Et alors, il me rédige ça, je valide l'écriture, et ensuite, il l'enregistre. Alors, il voit vite que quand il l'enregistre, ça dépasse les 30 secondes, souvent. Donc, il faut revenir sur le texte, réécrire. Donc, on est dans un va-et-vient entre l'oralité et l'écriture. Et puis, voilà, donc, il y a un exercice de stylisation d'écriture du texte. Et puis, après, aussi de mise en scène, de communication. Et donc, on retrouve là les 4 C. Je ne sais plus d'où ça vient, ces 4 C, mais ils sont très bien, ces 4 C. Chaque exercice scolaire, l'exercice scolaire, doivent travailler le C de la collaboration, le C de la créativité, le C du critical thinking, donc la pensée critique, et puis le C de la communication, savoir communiquer ses idées, savoir communiquer, voilà, et pas seulement de façon écrite.
Alors il y a aussi quelque chose aussi que j'ai trouvé assez amusé, c'est sur les petites vidéos que tu fais des doublages avec des. Je suis tombé sur des vidéos de Bollywood où tu fais des doublages. Oui.
Ça c'est génial, c'est vraiment très très bien, ça fonctionne très très bien, et parce que c'est un exercice transformatif. joueur, d'abord, c'est joueur, on s'amuse.
Ah oui.
On travaille sur la culture visuelle, la culture cinématographique, évidemment. Et puis, c'est l'exercice transformatif. C'est-à-dire que l'idée, c'est que s'ils ont vraiment bien compris le contenu scolaire, ils doivent être capables de s'approprier et donc de le transformer, de le mettre en scène un peu différemment et de jouer avec, en fait. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on prend des petits clips assez courts, encore une fois, à 1 minute, 2 minutes maximum, qui parlent un langage qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. Donc ici, c'est souvent des choses qui parlent pakistanais ou hindoustanais. Hindoustanais, ça se dit pas, c'est hindou.
d'Inde.
Ouais.
Je pars sous votre contrôle. nom d'Inde. Et donc, on invente des sous-titres. Alors, et c'est très bien d'ailleurs de bosser sur le même petit clip et de faire des sous-titres tout à fait différents. Donc, le même petit clip de 1 minute ou 2 minutes, une fois, et ça va être un propos sur la théorie des idées chez Platon, l'autre fois, ça sera sur la moralité selon Kant, et une troisième fois, l'angoisse de l'existence chez Sartre. Et donc, d'abord, alors, il y a plein de contraintes. Il faut avoir compris la doctrine, les problèmes philosophiques, les enjeux pour pouvoir jouer avec. Il faut que ce soit pertinent par rapport à la petite situation qui est quand même visible dans le film. Et puis il faut que ce soit joueur. Donc il faut que l'écriture soit courte. Hein. Et donc ça marche bien. Et ce qui montre que ça marche bien, d'abord on s'amuse en classe à le faire, et puis les élèves ont tendance à se le diffuser entre eux après. Donc ça, c'est
d'accord. Un bon signe en général. D'accord.
Voilà. Alors donc techniquement, soit on travaille sur un logiciel de montage. Alors là, toutes sortes de logiciels sont possibles, la liste est tout à fait ouverte, et on place des sous-titres, ok. Généralement, ce que je fais, moi, quand je travaille avec la classe, quand j'ai pas un trop grand groupe, je prépare les petits encarts, je prépare les zones de sous-titres dans mon logiciel, comme ça va vite en classe. Mm-hmm. Alors on peut distribuer un papier avec, on montre d'abord le clip aux élèves, on peut leur distribuer un papier, et puis avec les numéros des sous-titres qu'il faut trouver, et puis ils peuvent travailler par groupe.
D'accord.
Et puis proposer des sous-titres. Mais généralement, là, je l'ai fait en interaction avec la classe, en discutant. Deux minutes de clip sont faisables en 35 minutes, 40 minutes de travail avec une classe. Donc c'est moi qui m'occupe de mettre en place. Ça peut être un élève qui est bon là-dedans, qui peut s'en occuper, hein, de mettre en place. Techniquement, j'aime bien que ce soit pas moi qui doive manipuler l'outil, parce que quand je manipule trop l'outil, je perds le contact avec la classe. J'aime pas trop ça. Donc j'aime bien que ce soit, voilà. Et puis alors, l'autre outil qui est apparu entre-temps, qui est vraiment très très bien, enfin, en tout cas à ma connaissance, c'est un site qui s'appelle, il faut taper dans un moteur de recherche, Bombay TV ou Bollywood TV. Bombay TV, le site c'est graphane.com, un truc comme ça. Une agence de pub qui a développé un petit outil en ligne. Alors ils vous proposent toute une série de petits clips déjà trouvés par eux de Bollywood, et ils ont le petit moteur d'écriture des sous-titres pré-réglé, et les élèves là n'ont rien d'autre à faire que de choisir le petit clip, d'écrire dans l'outil destiné, dans le formulaire les sous-titres, et ça se place automatiquement, et ça produit un lien avec une vidéo qu'on peut ensuite télécharger en bidouillant un petit peu, mais en tout cas ça produit un lien, et y a vraiment une bonne quantité de petites vidéos qui peut faire que les travaux des élèves seront très diversifiés, et ça marche. Alors en salle multipost, ça c'est du bonheur.
D'accord. T'écris comment Graphane?
Alors Graphane, c'est GRAPHEN, je crois. Graphane. Mais en tapant dans Google ou Google Bombay TV.
D'accord, bon, j'essaierai de les mettre sur les notes de l'émission.
Ouais, on tombe assez vite dessus. Voilà. Et ils ont dans le même site, ils ont un petit outil aussi de montage vidéo avec des petits clips pré-réglés, et on peut construire aussi un petit film. Ça, j'ai pas encore utilisé. Mais d'accord. Bombay TV, ça marche très très bien, c'est très facile à utiliser dans des petites séances de cours. Il n'y a pas d'explication à faire aux élèves, ils comprennent tout de suite comment ça marche. Et donc, on peut se concentrer sur la créativité et la pertinence du contenu. Ouais.
Tu utilises aussi les réseaux sociaux, non, avec tes élèves?
Bah, alors ça dépend un peu des années. Cette année, pas trop. Bah, je suis toujours présent, quoi. Mais cette année, pas trop. Si cette année, j'ai commencé un groupe Facebook, ce que je n'avais pas fait avant. Le groupe Facebook, c'est bien parce que les échanges, ils sont... alors, je mets privé à l'américaine avec plein de guillemets, mais disons, en tout cas, ça, c'est visible par Facebook, la NSA est par nous.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, c'est pas comme une page. Ce qui est bien, c'est que qu'ils allaient sont amis avec le groupe, avec moi en particulier, comme ça ils ne voient pas mes turpitudes et je ne vois pas les leurs.
Tout à fait.
Mais je ne l'utilise pas trop trop, c'est actif près des examens en fait, hein. Je vois que ça s'active un petit peu. Et puis j'ai un compte Twitter destiné aux élèves, mais là Twitter cette année, alors je le montre toujours Twitter, je le pousse un petit peu, mais les années où ça ne prend pas, ils n'ont pas envie ou quoi. Alors cette année par exemple, ça n'a pas pris. Mais l'année précédente et les deux années précédentes, ça avait bien pris. Il suffisait d'avoir dans la salle de classe 2-3 élèves qui déjà sont actifs sur Twitter, et alors ils peuvent tweeter en cours, alors avec leur 3G, ils peuvent tweeter en cours, et c'est suffisant pour faire l'exercice où on peut projeter, soit en direct, soit à des moments donnés de pause, on peut projeter devant la classe ce qui a été pris en note par eux, et alors on peut faire une reprise pour voir est-ce que ça correspond bien à ce qu'on a dit, est-ce qu'on change, est-ce qu'on reprend. Donc ça je trouve ça fait des petites, c'est très important d'avoir comme ça des moments de respiration dans le cours, ça fait des petites changements. D'accord. D'activité. Et donc ça c'est très intéressant, et j'ai même fait l'année où ça marchait bien, comme je pouvais faire le même cours dans différentes classes. Bah oui, pourquoi pas. Le même cours dans différentes classes. Alors, il y avait un hashtag par classe, et j'ai pu faire ensuite, je me suis amusé à faire avec un outil qui s'appelle Storyfy, mais d'autres seraient possibles, mais c'est celui-là que j'ai utilisé. J'ai pu aller agréger, prendre les meilleurs tweets, les meilleures prises de notes des classes, des différentes classes, pour faire un seul document.
D'accord.
Donc il y a une prise, j'ai fait une prise de notes collaborative asynchrone grâce à Twitter. Ça, c'était chouette. C'était pas mal.
Mais cette année, ça marche pas. D'ailleurs, tu as eu un prix au Forum des enseignants innovants, c'est pour cette pratique-là, non ?
C'était ça que j'avais présenté à ce moment-là, mais je pense que c'est toute mon œuvre qu'ils ont récompensé. non, c'était l'activité que j'avais, montrée, ouais, à ce moment-là. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette activité, j'ai pas pu la refaire après, parce que voilà. Alors, j'aime bien aussi que la variété de la panoplie d'outils qu'on a fait que on peut laisser une marge de manœuvre, soit dans nos pratiques à nous évidemment, soit de la part des élèves. J'aime bien leur laisser une marge de manœuvre dans le choix de la modalité d'écriture qu'ils vont prendre. Des fois, j'impose, mais des fois, j'en dis bon, moi, ce qui m'importe, c'est que vous ayez compris le propos. Maintenant, montrez-le-moi de différentes manières.
Alors, je leur donne cette marge de manœuvre là. Quel regard portes-tu sur ton métier d'enseignement, sur une pratique un peu réflexive, et que, de quelle manière est-ce que pour toi ton métier a évolué avec les nouvelles technologies? Est-ce que aujourd'hui ton rôle d'enseignant a évolué, ou est-ce qu'au contraire il est resté le même, c'est plutôt le rôle des élèves qui a évolué? Comment tu te positionnes par rapport à ça?
Bon, il a de fait. Alors, moi, je dois dire qu'il a bien évolué, parce que dans mon expérience, l'usage des TIS me conduit, je crois, vers une pédagogie plus active. Donc, il a bien évolué, pas vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui marche juste en pédagogie, en fait. Donc, ça m'a permis, moi, de retrouver, de mettre davantage, de faire moins de cours magistrales. J'en fais encore, hein, et c'est très, très bien, les cours magistraux, à certains moments. Bon, c'est des moments magiques, très importants, qui ne peuvent arriver que entre quatre murs, entre un prof et une classe. Voilà, un cours magistral, c'est un homme qui rencontre une classe.
Ouais.
C'est vraiment dedans, hein. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est des moments de voilà. Mais on sait très bien que c'est pas ce qui marche le mieux pédagogiquement, et c'est vrai que moi, les outils numériques m'ont permis de retrouver des très vieux préceptes de ce qui fonctionne en pédagogie, plus de pédagogie active, d'une part. D'autre part, moi, comme je vous disais au début, l'entretien, j'ai vraiment la sensation de me renouveler dans mon travail, et donc personnellement, je m'ennuie pas du tout en ce moment. Il y a un côté exploratoire, il y a un côté un peu Far West qui est très stimulant. Ok. Ensuite, je sens que, alors même moi j'ai du goût pour les outils numériques, je sais très bien qu'on peut faire des cours formidables et bien meilleurs que les miens évidemment sans le numérique. Néanmoins, je trouve qu'on a aujourd'hui quelque chose comme un devoir d'éduquer à un usage, de coloniser ces outils comme on disait, hein, et d'éduquer à un usage plus vertical de ces outils qui sont souvent récréatifs. D'autant plus que ces outils demandent beaucoup de maîtrise intellectuelle pour les utiliser à plein. Je veux dire, par exemple, la surabondance informationnelle fait qu'on a vraiment besoin de savoir discriminer entre l'information et l'offre hypertrophiée d'informations rend plus que jamais nécessaire le travail de l'enseignant, évidemment. Et puis dernièrement aussi, je voudrais dire que la réputation de digital natives qu'on nous élève est en partie justifiée parce qu'ils ont une dextérité du pouce incroyable. Ils sont extrêmement habiles sur les outils sur lesquels ils passent du temps. Je veux dire, les jeux vidéo, moi je passe pas de temps sur les jeux vidéo, je ne maîtrise rien du tout, et beaucoup sur Facebook, sans doute davantage que moi, etc. Mais c'est assez limité. Hein, je vois bien que il y a des choses d'abord en bureautique de base. En tout cas, moi, mes élèves qui arrivent en terminale, qui savent juste pas faire des choses de base. Et puis, comment on fait des requêtes pertinentes sur Google. Et puis, comment on fait de la collaboration avec les outils en ligne. Comment on publie, comment on communique ça, comment on protège son identité, comment on la construit. Ça, ils ont vraiment besoin qu'on les instruise de cela. Qu'on passe du temps avec eux pour faire ça. Donc, les digital natives sont souvent des digital naïfs hein, à plein d'égards. Donc, il y a vraiment une responsabilité là. Je veux dire, il faut s'en emparer quoi. Et je pense que l'enseignement d'informatique étant ce qu'il est, c'est à tous les profs, en tout cas à certains, de prendre ça en charge. Il faut que ce soit pris en charge.
Complètement. Moi, je pense même que c'est une responsabilité vraiment commune de. Ouais. D'éduquer à Internet et au réseau et à, exactement à son soi sur Internet et à l'image qu'on veut. Moi, j'ai toujours tendance à dire, montre-moi ton Facebook et je te dirai qui tu es, mais c'est un petit peu ça chez les ados. C'est souvent l'image qu'ils veulent donner à un moment T, une photographie de leur être, souvent de leur mal-être d'ailleurs. Et ça peut avoir des répercussions vraiment en classe puisqu'on se retrouve souvent à gérer aussi des conflits qui avant étaient atténués parce que le soir les enfants rentraient chez eux et voilà, le cadre familial faisait qu'on faisait un peu un break dans les conflits de classe et ces conflits aujourd'hui perdurent via les réseaux sociaux, via le virtuel, et du coup les enfants arrivent le lendemain matin souvent encore plus remontés qu'ils n'étaient la veille, et il faut aussi gérer ça du coup en classe. Je trouve qu'on a une continuité des classes sur tous les points de vue. C'est-à-dire qu'aussi bien en tant qu'enseignant, il faut qu'on continue nos classes en dehors parce qu'on peut leur proposer des ressources, on peut leur proposer tout plein de choses. Mais on doit aussi maintenant gérer un peu à l'extérieur des conflits et avoir ce rôle un peu de community manager, qu'on le veuille ou non, quoi.
Mais là, on rencontre un problème de redéfinition de notre métier. Hein. Pour l'instant, on explose le cadre de travail aussi. Hein. On est un peu dans le.
Complètement.
Tout à fait. Hein. Tout à fait.
Ils apprennent beaucoup de choses entre eux, donc par les pairs. Ils regardent sur YouTube des tutoriels, ils apprennent, c'est formidable. Hein, ils savent s'instruire horizontalement, hein, c'est extraordinaire. Mais il y a des choses quand même qui méritent des apprentissages
verticaux,
plus verticalisés, ou en tout cas la présence d'une verticalité structurante.
Tout à fait.
Là-dedans un peu aussi, hein. Ouais, ça c'est clair. D'autant plus qu'ils ne sont pas seuls, hein. Je veux dire, le loup dans la bergerie, hein. Je veux dire, le poids d'une part des industries pornographiques. D'une part, mais c'est une part importante, et puis le poids des industries de captation de l'attention, comme on peut les appeler, enfin je veux dire les grands Facebook, etc., sont présents aussi, donc on n'est pas les seuls à. Voilà, il y a du
tout
monde,
à fait.
Il y a de la pression sur eux.
C'est sûr.
Complètement.
Bon, et ben on est dans les temps, à mon avis, Guillaume.
Bien sûr, mais en fait, c'est passionnant. Alors...
C'est passionnant, ouais. Il faudrait presque faire une émission supplémentaire, François.
Je pense qu'on en reparle parce que on n'a pas eu le temps de.
Alors, désolé pour cette fin un petit peu chaotique. C'est les aléas du direct, un petit problème technique. Donc c'était juste pour remercier François Jourde d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'on se refera ça avec François pour finir un peu plus correctement. Pour contacter François, le plus simple c'est Twitter, c'est @jourde, J-O-U-R-D-E. Son site perso aussi qui est profjourde.wordpress.com. Voilà. Pour contacter nous, teachers, c'est toujours e-teachers.fr. Et nos Twitter, c'est @jeff8342 pour moi. Et pour Guillaume, c'est @willow. Tiré du 8, teach. Voilà, à dans 15 jours.